France Inter.
C'était le 25 mars dernier, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Affrontement entre forces de l'ordre et opposants à la construction de bassins artificiels au milieu des champs, des stockages d'eau puisés en hiver dans la nappe phréatique pour irriguer en été les terres agricoles du département. Une hérésie au service d'un modèle agricole productiviste pour les uns, une solution inéluctable face au changement climatique pour les autres. Ces bassines seraient même le symbole d'une guerre de l'eau dans laquelle la France a basculé, alors que cette eau de pluie, de neige, de nappe, autrefois abondante et régulée par des saisons stables, est devenue incertaine, soumise aux aléas d'une météo imprévisible.
On a un territoire qui est confronté à des pénuries de ressources en eau, un déséquilibre quantitatif. On a un devoir de rééquilibrage, finalement, possible qu'en améliorant le partage de l'eau, parce qu'on risque de se retrouver à très court terme dans des situations fort dramatiques pour les décennies et des décennies à venir.
L'eau agricole, l'eau à boire, l'eau de confort, l'eau industrielle, comment gérer cette source de vie qui devient source de conflit? Quel partage entre tous les usages? Comment concilier la préservation de la ressource et de l'environnement avec des intérêts économiques dont dépendent aussi les territoires?
À travers ce contrôle des terres, il y a bien sûr le contrôle de l'eau. Quand vous vivez ici, vous apercevez que tout est contrôlé par Nestlé. Les gens, les sols, les élus, etc. Aucune autre orientation n'est prise pour se substituer demain à l'activité d'embouteillage de l'eau minérale.
On vous emmène aujourd'hui dans trois lieux représentatifs d'une France où l'enjeu du partage de l'eau est en train de s'imposer. Dans les Alpes, où l'eau de neige et des glaciers n'est plus une évidence. Dans la plaine vosgienne, où l'eau minérale est menacée. Dans les Pyrénées-Orientales, qui connaissent une sécheresse historique, où les vendanges ont commencé mi-août par 32 degrés et donc de nuit. L'eau, source de conflit, un reportage de Célia Quiret, Marie Roussel et Antoine Gignot, qu'on retrouve dans les vignes, pendant les vendanges, près de Rivesaltes, avec Romain Lucquens à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
Bonjour. François Capdelaire, vigneron ici à Bachas, à la cave Les Vignobles d'Ombrial, et président de la structure de cette belle cave coopérative. Laurent, le propriétaire.
Bonjour. Antoine.
Bonjour, je ne vous ai pas vu.
En fait, le problème, il y a beaucoup moins de jus que les autres années, donc du coup, là, ça descend en bloc. D'habitude, ça descend doucement. La difficulté de la manœuvre.
Est-ce que les grains sont plus petits que d'habitude?
Ouais, beaucoup plus petits, ouais.
Si on les décrit là, ces grains, c'est ben, quoi?
Là, on voit, elle fait à peu près 7-8 mm de diamètre, la baie. En principe, elle devrait faire le double. Bon, ici, comme vous voyez, on est quand même sur des parcelles bien travaillées, jolies. Mais on sera malgré tout à 30% de moins. On est plutôt sur certaines exploitations à moins 50%.
Là, c'est la première fois que je le vois. Bon, en 30 ans d'exploitation, c'est la première fois que je le vois comme ça. Un stress comme ça, manque d'eau. À la taille, on aura de la taille très difficile, des arbres maigres, des bois maigres. Et la récolte l'année prochaine est amputée déjà.
Il est tombé combien, vous l'avez mesuré, de millimètres de pluie depuis le printemps?
Sur les 12 derniers mois glissants, on est à 160 mm. Une année normale, c'est à minima 500 mm. En tout cas, c'est ce qu'il faut pour la vigne, pour la plante. Ouais.
Et les nappes sont vides. Voilà. Faut de l'eau.
Les conséquences de la sécheresse, on les voit sur les coteaux, dans les vignes, mais elles sont encore pires dans les vergers. On a rendez-vous avec Denis Basserie, à quelques kilomètres d'ici. Il cultive des abricots du Roussillon. Ambiance abricotier mort.
Ça c'est mort. C'est mort, hein. Vous voyez, ça peut pas se refaire à ça. C'est sec.
ça a trop souffert de... Là, on se croirait fin novembre, voilà. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez les feuilles par terre, c'est l'automne, là. Vous voyez ? Ici, on est vraiment dans un climat qui est devenu désertique.
On voit que la terre, là, même s'il a plu un tout petit peu ces derniers jours, la terre reste extrêmement sèche.
On a eu 9,5 mm. Hein, je dirais. Et quand vous avez des vents comme ça qui soufflent derrière, chaque fois qu'il y a eu de l'eau, derrière, on a eu des épisodes de vent de 3 ou 4 jours très, très intenses. Donc, de toute façon, quand on voit la gueule des arbres, c'est catastrophique. Moi, je ne venais pas, c'est mon salarié qui vient sur tout le secteur du Rivesalté, là, traiter ou faire les travaux. Parce que ça me tord l'estomac, ça me tracasse l'esprit, j'en dors plus. Donc j'évite de venir parce que de toute manière, on ne pourra rien faire de plus. On pourra amener de l'engrais, on pourra amener ce qu'on veut. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui se passe.
Et il n'y avait aucune solution alternative pour acheminer de l'eau jusqu'ici ?
On avait obtenu des lâchers d'eau là, du barrage, parce qu'à un moment donné, il était un petit peu remonté avec les pluies. Hein. On était remonté à 15 millions de mètres cubes, sachant que c'est même pas la moitié du barrage, 15 millions. Et elle est passée par des gouffres, et à un moment donné, elle avançait de 2 km par jour, et à un moment donné, elle a pu avancer que de 400 mètres, puis de 300 mètres. Et finalement, c'est arrivé jusqu'à ici. On a arrosé pendant 3-4 jours. Il y avait tellement un déficit hygrométrique, même en profondeur, que ça n'a pas duré, quoi. Et ils ont dû arrêter le lâcher du barrage, parce qu'on était dans un seuil de nouveau redevenu critique. Malheureusement, ça va passer par de l'arrachage. Et pour replanter quoi ? Si on vit cette situation l'année prochaine et qu'on ne peut pas mettre d'eau, on nous parle de s'adapter au changement climatique et au changement de culture. Mais aucune culture ne vivra sans eau. Ça, il faut environ 4 à 5 ans pour que ça commence à arriver en pleine production. Donc là, si on doit arracher, là même les assurances ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent que sur la récolte, mais elles ne fonctionnent pas sur les pertes de fonds. Alors qu'est-ce qu'on va faire de nos salariés ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a investi ? On a eu un drame du côté de Salsa. Voilà, il y a quelqu'un qui malheureusement est passé à l'acte. C'est dramatique. Hein.
Il y a une solution, ou il y a des solutions sur le partage de l'eau. On est dans une région où il faut à la fois tenir compte du tourisme avec des villes côtières qui explosent pendant l'été, des populations qui sont quand même assez importantes dans les agglomérations, des besoins agricoles qui sont quand même importants vu la taille des exploitations. Est-ce qu'il y a une solution pour partager l'eau entre tous ces acteurs-là ?
Nous, on est pour le partage de l'eau, on est pour que le tourisme fonctionne, on est pour que tout le département fonctionne. Seulement, je pense qu'on ne pourra pas continuer dans ce département. On est comparable au sud de l'Espagne et de l'Andalousie. Donc, les solutions, c'est le stockage de l'eau, bien entendu. On va devoir faire des stockages. Il n'y a pas d'autre solution. Le recyclage des eaux usées. On sait qu'une ville comme Perpignan rejette peut-être autant d'eau que ce que coule le lit de la tête. Donc il ne faut pas que pour une minorité de bobos écologistes, à un moment donné, parce que ces gens-là, c'est les premiers qui viennent vous donner des conseils, mais ils ne produisent rien pour la France. Hein.
C'est toute la polémique sur les méga-bassines, et qu'est-ce qu'on stocke et à quel endroit, ouais.
On a tourné le problème dans tous les sens, on a fait des multiplications, des divisions, des soustractions, tout ce qu'on veut. Sans eau, on n'arrivera à rien, ni même à faire pousser des cactus.
Vide, voilà. Faut de l'eau.
Et maintenant, c'est sec, c'est mort. Si on vit cette situation l'année prochaine et qu'on peut pas mettre d'eau, c'est mort.
L'un des enjeux dans les Pyrénées-Orientales, c'est de répartir l'eau entre les agriculteurs, les collectivités et les villes de bord de mer qui passent parfois de 10 à plus de 100 000 habitants l'été. Les campings, les professionnels du tourisme ne consomment sur l'année qu'un peu plus de 2% de l'eau, mais ils la prélèvent au moment le plus critique, en juillet et en août. Ils utilisent un quart de la ressource.
Cette année, le département des Pyrénées-Orientales connaît une sécheresse historique et avec elle, des restrictions d'usage de l'eau. Pour garder leurs piscines ouvertes et rester attractifs, les campings du département se sont engagés à prendre des mesures pour réduire leur consommation d'eau de 30%.
Là, on se rapproche des routes des plages. On a rendez-vous avec Franck et Jérôme Pérez, propriétaires du camping de Taxot-les-Pins à Argelès-sur-Mer. 450 mobilhomes, 3000 campeurs au plus fort de la saison.
La piscine, pour les gérants, une équation à résoudre. Satisfaire la clientèle et éviter le gaspillage de l'eau à l'heure où le département est touché par des épisodes de sécheresse à répétition.
Bienvenue, welcome, benvenido, visiteur. Où est l'accueil ? Camping familial.
Antoine,
bonjour.
Bonjour Romain.
Merci beaucoup de prendre le temps.
Avec moi, c'est un plaisir.
On est à côté d'une gigantesque installation, on va dire quoi, elle est 3 mètres par 10, avec des grandes cuves. C'est le dernier investissement que vous avez fait finalement sur le camping en matière de traitement de l'eau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord le fonctionnement ?
Alors, ce fonctionnement est relativement simple. Là, on a créé une cuve enterrée qui nous permet de récupérer l'eau usée des piscines. Cette eau, elle arrive par le tuyau qui est là. Elle est filtrée, on a un petit filtre en sortie.
Pour enlever le gras.
Voilà. Le gras des crèmes solaires, surtout, parce que c'est la plus grosse pollution qu'on ait sur les bassins. On a un petit compteur qui nous permet aussi de voir la quantité d'eau qui est recyclée.
Voilà, juste on appuie sur l'interrupteur, tout simplement. Voilà, et là, vous avez l'eau qui sort.
Donc ça veut dire que sous nos pieds, en ce moment, il y a combien de litres ?
Vous avez 60 000 litres, 60 mètres cubes d'eau, sachant qu'aujourd'hui, ça, c'est un volume qu'on peut remplir chaque semaine. Donc si on ne l'utilise pas, ça va, le trop-plein va à l'égout et l'eau est perdue. Et ça, c'est vraiment un principe qui a été fait avec la Fédé et le préfet cette année, c'était de dire, il faut que chaque goutte d'eau serve deux fois. Une fois pour les piscines et une fois qu'elle soit recyclée. C'est pour ça que ça vient dans ce bassin, ça se décante et cette eau, on la récupère. Mais maintenant, ce qu'on veut, in fine, ça serait de prendre l'eau de la piscine, la traiter ici et la réinjecter propre dans la piscine pour être en circuit fermé et que les piscines aujourd'hui ne consomment plus d'eau. Voilà.
La consommation du camping sur un mois, sur une semaine, c'est, vous savez la chiffrer ?
En gros, sur une année, chez nous, 43 000 mètres cubes d'eau par an.
Alors, comment est-ce qu'on arrive justement à partager la ressource ? Est-ce que vous discutez avec les autres acteurs, notamment avec les agriculteurs, notamment avec les collectivités aussi, la gestion des barrages ? Quel poids vous avez là-dedans pour justement imaginer des solutions qui fonctionnent ?
C'est qu'on a fait un partenariat déjà avec le vignoble qui est juste à côté, avec qui on avait dit si jamais ton puits s'assèche, cette ressource d'eau, elle est à ta disposition pour pouvoir irriguer tes vignes si besoin. Parce qu'il faut être capable d'utiliser ce volume d'eau en une semaine. Et ensuite, on était aussi répertorié avec le SDIS d'Argelès pour qu'ils puissent venir chercher de l'eau s'il manquait de l'eau pour remplir la citerne pour pouvoir combattre l'incendie. Et maintenant, j'imagine pas qu'un seul confrère qui fasse une piscine sans partir sur un principe de récupération d'eau pour, ben, pareil, les gens qui en ont besoin autour de nous.
Oui, pour la belle. Canicule cette année, ça a été très dur.
Vous avez passé combien de temps là dans
Nous, on a passé deux semaines. Là, on est venu ranger le mobilhome et puis on fait une partie de pétanque avec les voisins. Voilà. Et comme on est de Perpignan, donc quand je rentrais à la maison le soir, devant la maison au soleil, on avait 50 degrés. Parce que ce n'est pas la pluie qu'il a fait hier. Hein. Je crains l'après-touriste pour les restrictions d'eau.
Les restrictions d'eau, d'ailleurs, comme on nous avait prédit, on l'a fait. Parce que il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'eau, entre autres le nôtre. On a manqué d'eau, on était livrés de bouteilles d'eau et beaucoup ont fait ça. Donc on pense que pour l'instant, pendant qu'il y a des touristes, tout va bien, tout est beau, c'est merveilleux. Après le tourisme, peut-être qu'on aura des contraintes.
Il n'y a pas eu de neige cet hiver et il n'a pas plu au printemps. Donc automatiquement, il n'y a pas d'eau dans les sources.
Tout simplement.
Voilà, je suis Nicolas Garcia, donc maire de Elne et premier vice-président du département, en charge de l'eau et aussi président du syndicat des nappes de la plaine du Roussillon. Pluviométrie, ben, au mois d'août, zéro. C'est pratiquement jamais arrivé. En gros, on est à 55 à 60% de déficit pluviométrique. Voilà. Si on repasse un autre hiver comme on a fait 2022 et un peu 2021, c'est carrément la catastrophe. Moi, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais réellement, en gros, sur 100% des nappes, la moitié sont en alerte renforcée, c'est-à-dire avant-dernier niveau de crise, et l'autre moitié sont en niveau de crise. En tendance, depuis 20 ans, on est en chute libre. C'est-à-dire que même S'il pleuvait cette année un peu plus, on serait très content. Mais par rapport à 2001, la courbe, elle est que descendante. Que descendante. Y a pas, ça ne remonte pas. Nappes quaternaires et nappes pliocènes, étiage des rivières, c'est catastrophique.
Allez, on va aller voir justement Villeneuve-de-la-Raho qui sert d'habitude un peu de retenue pour alimenter toute la vallée.
C'est une retenue qui alimente le bas de la plaine du Roussillon, notamment le monde agricole, et c'est très compliqué. Vous allez voir. C'est une retenue d'eau qui est faite pour être alimentée par le barrage de Vinça. Bon, en gros, il y a 30 mètres de recul. On a interdit les golfs, on a interdit l'usage malheureusement des potagers particuliers, ça a fait beaucoup de mal. Mais on a quand même maintenu avec des restrictions le monde agricole. Il y aura une réserve pour cette année, mais si on ne remplit pas cet hiver, l'été prochain on ne pourra plus arroser. Quoi. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont y laisser la peau. Hein. La terre, en tout cas, l'exploitation.
Les situations sont très contrastées suivant l'installation géographique des agriculteurs. Mais globalement, il en ressort quand même, chez beaucoup d'exploitants, une frustration d'avoir vu des barrages vidés au début de la saison. Est-ce qu'il y a un problème d'étalement de la ressource sur le temps ?
Le barrage est la propriété du département. L'eau est la propriété des usagers. Si on a lâché de l'eau, c'est à la demande des usagers. C'est le préfet qui décide de lâcher. Il y a un comité de barrage minimum mensuel où tous les usagers sont là et on décide ensemble de lâcher de l'eau.
C'est une situation qui montre bien à quel point le manque de ressources a aussi un peu cristallisé les tensions. Même si tout le monde a travaillé ensemble, le secteur touristique, les villes, les agriculteurs, les instances de l'État, c'est pas forcément évident.
Mais, mon grand-père disait que quand il n'y a pas d'avoine dans les râteliers, les chevaux, ils se battent. Là, on n'est plus dans l'adaptation. On est dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut retravailler les choses, repenser notre tourisme, repenser notre manière d'utiliser l'eau. Voyez, il y a quand même un changement de logiciel, j'ai envie de dire. C'est un problème qui doit être un problème national. Dans le budget de l'environnement, il doit y avoir la lutte contre la sécheresse. On en mette moins dans l'armée, dans l'armement, et qu'on en mette plus là, ce serait sympa.
Changer de modèle, de logiciel, de paradigme. Encore faut-il que tout le monde y soit prêt. Après les Pyrénées-Orientales, direction les Vosges. Marie Roussel nous emmène à Vittel, où les prélèvements de Nestlé ont mis à mal la nappe d'eau minérale, où des habitants se sont organisés pour demander le départ de la multinationale, où les élus locaux sont pris entre préservation de la ressource et survie de leur territoire.
Interception sur France Inter.
Là, on est à Lignéville, c'est à quelques kilomètres de Vittel. Autour de nous, il y a des prairies, des vaches. Elles appartiennent à un éleveur qu'on va voir maintenant. On ne donne pas son nom pour préserver son anonymat. Une partie des terres qu'il exploite, en fait, appartiennent à Nestlé.
Bon, là, il n'y a pas de vaches parce qu'elles sont dehors.
Ben, elles sont là-bas, les vaches. Elles sont en pâturage. Parce qu'elles ont 40 hectares accessibles, les vaches.
Toutes celles qu'on voit là-bas, c'est les vôtres ?
C'est les vaches laitières, oui. Alors, quand il pleut, c'est merveilleux, il y a plein d'herbes. Et puis après, nous ici à Lignéville, c'est quand même un territoire assez séchant. Donc quand il fait sec, c'est plus compliqué de pâturer. C'est pour ça qu'on est obligé de compléter un peu toute l'année à l'eau rouge.
Vous avez jusque...
Nous, on a jusqu'à la haie, là-bas. Tout le fond, là, tout le long du ruisseau, là, jusqu'à là-bas, où c'est que vous voyez l'arbre qui s'écroule avec l'orage.
C'est le ruisseau dans lequel vous puisez votre eau pour travailler.
Là, vous voyez, recule, et puis je suis pas le seul, hein. Ah, pour travailler, après, on prend de l'eau là occasionnellement quand on en a besoin pour alimenter des bêtes qui sont dans les prés, qui n'ont pas d'eau. Quoi. Donc,
La particularité, c'est que vous utilisez cette eau-là parce que vous n'avez pas la possibilité de faire de forage.
On est au-dessus de la nappe de Vittel. Donc si on fore, on va prendre de l'eau de Vittel pour abreuver nos bêtes, faire fonctionner nos installations. Donc on n'a pas le droit, on n'a jamais le droit en fait. Le sous-sol appartient à Vittel, à la société des eaux de Vittel, à Nestlé, par le fait. Nous, dans le groupe qu'on travaille avec Agrivert, là, bah, Agrivert, c'est une filiale de Vittel SA, de Nestlé, pour protéger l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre d'engrais nous-mêmes, on n'a pas le droit d'épandre les fumiers nous-mêmes, ni les lisiers, parce qu'on en mettrait trop, on serait censé polluer l'eau. Donc eux, ils sauvent. Ils gèrent les effluents d'élevage, ils gèrent tout ce qui est fertilisation. Donc c'est eux qui font le job.
Le fait que vous n'ayez pas la possibilité d'utiliser cette eau, est-ce que
Vous pouvez voir ça comme une forme d'injustice?
La seule injustice que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que on a travaillé avec eux pour préserver la qualité de cette eau, que ce soit toujours une eau minérale, et de préserver l'emploi. Et quelque part, ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de l'emploi. Voilà.
Donc merci à tous d'être présents pour nous soutenir dans notre lutte pour zéro licenciement. L'intersyndicale rappelle que la justification par le groupe Nestlé de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi repose principalement sur deux motifs. La décision prise en février 2022 pour des raisons stratégiques d'arrêter la commercialisation de la marque Vittel en Allemagne. La suspension de deux forages épars impactant à hauteur de 60% les volumes de cette marque. Entre 2021 et 2023, ces décisions ont impacté à hauteur de 30% les volumes produits sur le site. Les organisations syndicales, conscientes que des mesures d'adaptation sont aujourd'hui nécessaires, considèrent que la gestion sociale de cette situation aurait dû être avec zéro licenciement.
Manifestation pour l'emploi à Vittel en ce mois de septembre contre un nouveau plan social de Nestlé. En 1975, 5000 salariés travaillaient dans l'embouteillage, ils ne seront bientôt plus que 700. De moins en moins d'emplois, mais beaucoup d'eau prélevée, beaucoup trop vite. La nappe profonde accuse un énorme déficit. C'est celle de l'eau minérale qui a fait la réputation de Vittel et la richesse de Nestlé. C'est celle aussi que boivent les habitants. Et puis les nappes dites superficielles souffrent aussi, moins de pluie et des prélèvements de Nestlé là encore.
Oui, donc je suis Bernard Schmitt, porte-parole du collectif Eau 88. Qui regroupe trois associations environnementalistes et une association de consommateurs dans les Vosges. Au début, on voulait simplement qu'il y ait un partage équitable de l'eau. Aujourd'hui, je crois que nous luttons pour que Nestlé s'en aille. Hein, il y a trois nappes d'eau ici, peu importe. Et de fait, Nestlé a un quasi-monopole sur l'ensemble des nappes d'eau. Nestlé a fondé une filiale qui s'appelle Agrivert. Et là, Nestlé, à travers sa filiale, possède 2500 hectares de terres agricoles sur le territoire de Vittel-Contrexéville. Les textes législatifs disent que la propriété du sol l'emporte sur le dessus et les dessous. Donc aujourd'hui, Nestlé possède, de fait, les nappes souterraines qui sont sous ses pieds. Hein, donc, à travers ce contrôle des terres, il y a bien sûr le contrôle de l'eau.
Sachant qu'il y a quand même une taxe reversée aux collectivités chaque année.
Depuis les années 30, il existe une surtaxe sur les eaux minérales qui est versée aux municipalités. Aujourd'hui, Vittel, c'est 4 millions d'euros. Qui fait par exemple que Vittel, c'est le troisième budget des Vosges, alors que c'est une ville qui vient de passer sous 5 000 habitants. Ça crée un lien inextricable entre une municipalité qui ne peut pas vivre sans cet argent de Nestlé et donc sans doute des facilités qu'une municipalité, qu'un homme politique octroie à la multinationale, etc.
Nestlé, pour vous, c'est un peu un état dans l'état ici?
Quand vous vivez ici, vous apercevez que tout est contrôlé par Nestlé. Les gens, les sols, tenus par Nestlé, qui a embauché un de leurs enfants, un cousin. Et aucune autre orientation n'est prise pour se substituer demain à l'activité d'embouteillage de l'eau minérale. On reçoit plein d'argent, on ne se pose pas de questions et on continue comme ça. Donc nous sommes dans une colonie Nestlé à Vittel-Contrexéville.
Vous êtes quand même fortement mobilisé. On sent que vous le dites, c'est une multinationale qui contrôle beaucoup de choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur?
On a cherché à m'intimider une ou deux fois, mais je ne suis pas intimidable. Donc, voilà. Nous, on sent bien qu'il y a un changement dans la mentalité des gens.
Allô ?
Bonjour, monsieur Marie Roussel. Vous savez, la journaliste de Radio France.
Oui.
Bonjour, je me permets de vous rappeler parce que effectivement les premières demandes d'interview datent du mois de mai, donc il y a 4 mois, et jusqu'ici j'ai jamais...
Oui, c'était pour un reportage Nestlé Water, mais je pensais vous avoir à minima laissé un message pour vous dire que pour l'instant c'était pas d'actualité. Nestlé Water, c'est un des utilisateurs de la ressource en eau sur le territoire, mais pas le seul. Donc quand il s'agit du sujet de l'eau, Nestlé Water n'est pas le seul interlocuteur.
Entendu.
Si vous avez des nouvelles questions supplémentaires, transmettez-les-moi. Je suis là pour vous pour faciliter les choses, transmettre les informations, suivre ce que je laisse. Je m'engage à revenir vers eux là dès à présent.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Difficile à Vittel de parler de Nestlé, difficile aussi de parler à Nestlé. Juste avant la fin de ce reportage, la multinationale a finalement bien voulu nous répondre, mais par mail.
Nous sommes confrontés à des conditions climatiques qui se détériorent. Dans le cadre d'une gestion raisonnée de la ressource en eau, Nestlé Waters tient compte du changement climatique et adapte ses prélèvements en fonction de la disponibilité de la ressource en eau. Nestlé Waters a baissé de façon continue ses prélèvements sur l'ensemble des nappes présentes sur le territoire de Vittel, soit déjà une baisse de 23% entre 2010 et 2022.
À Vittel, Nestlé pompe dans trois nappes pour ses eaux minérales. Deux nappes sont dites superficielles, la troisième est une nappe profonde. C'est elle qui connaît un grave déficit en raison des prélèvements excessifs depuis des décennies. Ces prélèvements commencent enfin à baisser. Marie Roussel est allée faire le point avec Jean-Marc Vautier de l'agence de l'eau Rhin-Meuse.
Si on parle de la nappe des grès, donc c'est une nappe profonde hein, qui se situe globalement autour de Vittel à 200 mètres de profondeur. Donc on parle bien de nappe profonde dans laquelle on a une eau de qualité qui est utilisée depuis les années en gros 60-70 pour les usages industriels. Donc ça a permis le développement industriel sur ce territoire et les besoins en eau domestique puisqu'on a une eau de qualité. Maintenant, on s'aperçoit qu'elle n'est pas disponible en trop grande quantité. En tout cas, les prélèvements sont supérieurs à sa recharge. Et donc, c'est vraiment un sujet de préoccupation depuis les années 2010.
Où on se situe au niveau du déficit actuellement ?
Alors, le déficit, il était autour de 1 million de mètres cubes par an, c'est-à-dire qu'on prélève 3 millions, puisque la nappe se recharge à hauteur globalement de 2 millions. Véritablement, la tendance à la baisse, elle est relativement récente, de l'ordre de 5 ans. Mais par contre, elle est très importante sur les prélèvements, principalement par les industriels qui ont diminué leurs prélèvements de l'ordre de 50%. C'est-à-dire qu'on a fait au moins deux tiers des économies qui étaient souhaitées. Maintenant, il reste encore un tiers.
Il y a aussi d'autres nappes souterraines.
Oui, alors les prélèvements industriels, en particulier pour l'usage d'embouteillage, restent importants sur ces nappes plus superficielles, qui alimentent également les nappes profondes, et puis également par débordement, en partie des cours d'eau. Alors actuellement, et d'un point de vue de nos enregistrements, de nos données, c'était bien la nappe la plus profonde qui était sujet à déficit et donc à urgence en termes de retour à l'équilibre. Et il y a ce point de préoccupation, de vigilance, qui est posé sur les nappes plus superficielles. Mais ce qui nous intéresse le plus à l'Agence de l'eau, ce sont les plans d'action très concrets, les résultats. Donc là, on a des motifs d'encouragement et de satisfaction de voir que les industriels ont déjà largement baissé leurs prélèvements. Notre satisfaction sera atteinte d'abord quand on aura atteint réellement l'équilibre et surtout quand on aura régénéré cette nappe. Il faut poursuivre les efforts.
Régénérer la nappe profonde, à réparer les erreurs du passé en fait, il faudrait déjà que les prélèvements passent sous la barre des 2 millions de mètres cubes par an. On n'y est pas encore, mais Nestlé est sous pression comme la fromagerie de l'Ermitage, qui prélève aussi beaucoup d'eau à Vittel pour produire 40 000 tonnes de fromage chaque année. Je vais visiter cette fromagerie avec Nicolas Monet, le directeur du site à Vittel, et Daniel Grémillet. Il préside la coopérative et il est aussi sénateur LR dans les Vosges.
On va aller voir tout de suite l'investissement qui a été fait. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on est capable, avec des procédés, de faire des économies énormes, de récupérer de l'eau. On y est très attentif.
C'est une eau récupérée, vous disiez, des produits du lait.
Du lait, du lait. Oui, il faut savoir que le lait est constitué à plus de 85% d'eau. Et donc, on essaie, avec différents process, de récupérer pour pouvoir réutiliser cette eau-là. Et ensuite, elle va servir pour faire les prélavages, les lavages intermédiaires de fromage à pâte molle avec une eau qui est une eau récupérée et plus une eau issue de la nappe.
Bonjour.
voyez en face les fromages qui défilent sur la chaîne. Et en dessous des fromages, vous avez une récupération parce que le fromage est en train de s'égoutter. Donc il y a du lactosérum qui va passer à travers les filtres, les membranes. Et ce lactosérum, durant son trajet, est récupéré. C'est-à-dire que dans toutes les phases, chaque fois qu'on peut récupérer une goutte de lactosérum, elle est collectée, elle est ramassée. Et à partir de ce lactosérum, on peut produire de l'eau. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Les anciennes installations n'avaient pas ce système de performance, de récupération à tout instant sur la chaîne du lactosérum. Et partout, quand vous allez dans les caves d'égouttage, là, à nouveau, le lactosérum est collecté. L'Ermitage n'a pas de puits, n'a pas de forage. Et tous les mètres cubes d'eau qui sont consommés à l'Ermitage sont payés par la coopérative de l'Ermitage. Vous êtes dans une entreprise qui achète l'eau. Quand vous achetez de l'eau, si vous pouvez faire l'économie de l'eau, vous la faites. Sur le prélèvement, par rapport à cette nappe, on a diminué 200 000 mètres cubes. Aujourd'hui, on est à 417 000, 420 000 mètres cubes. Et puis, on a augmenté la production d'eau produite sur le site à 211 000, 240 000 mètres cubes grâce aux investissements qui ont été faits. Donc, le défi, le sujet de la nappe est un sujet sur lequel l'Ermitage est très attentif, mais sur lequel l'Ermitage, si elle veut continuer d'exister, on ne peut pas être sur de l'eau de mélange. La qualité, la signature de la qualité des produits de l'Ermitage qui sortent du site de Bugnéville, c'est la qualité du lait, je le répète, du savoir-faire, mais aussi de l'eau. Il ne faut pas que non plus ce secteur de Vittel devienne un territoire désert. Il y a besoin d'avoir de la vie, de l'économie. Donc l'Ermitage a fait sa part et continuera de participer à la réduction de la consommation d'eau. Mais il faut aussi que chacun y participe en fonction de ses capacités. Donc nous, ça fait partie de notre ambition et on continuera de le faire.
Chacun sa responsabilité dans la mesure de ses capacités. Mais comment créer du dialogue quand chaque acteur, chaque usager se retranche dans la sauvegarde de ses intérêts ? Si l'eau est un bien commun, son partage impose de la concertation. Et on n'y est pas encore. Avec Célia Quiret, direction maintenant les Hautes-Alpes, que la sécheresse n'épargne plus en été. Les élus de la Haute-Vallée du Champsaur et ceux du Gapençais se disputent la rivière qui descend du massif des Écrins. Le Drac, le Dragon, qui vient des sources du Drac noir et du Drac blanc, à 2500 mètres d'altitude.
Alors là, on est sur la route entre Gap dans la vallée et Orcières en montagne. On voit le Drac qui coule de la montagne et c'est là que débute le canal de Gap. C'est là que l'eau du Drac est captée pour partir dans le canal de Gap et ensuite alimenter la ville en eau potable et aussi les besoins de l'agriculture. Et en été, par exemple au mois d'août, 75% de l'eau du Drac est captée pour le canal. On va rencontrer Bertrand Breil, le directeur de la CLEDA. C'est la communauté locale de l'eau du Drac en amont. C'est lui qui est chargé justement de surveiller la bonne santé du Drac et de veiller au bon partage de l'eau.
Interception sur France Inter.
Donc immédiatement à l'aval de la confluence du Drac blanc et du Drac noir, donc aux sources du Drac, est implantée la prise d'eau du canal de Gap, créé sous Napoléon III et qui, après un cheminement de plusieurs dizaines de kilomètres, en fait, permet d'irriguer le bassin Gapençais. Donc on a un transfert d'eau d'un bassin, celui du Drac, vers un autre, celui du Gapençais. C'est le plus gros prélèvement que l'on observe sur le Drac, sur le Haut Drac. C'est un prélèvement de l'ordre de 30 millions de mètres cubes par an. C'est un prélèvement qui peut atteindre 75% du débit du Drac. Et ces 30 millions de mètres cubes, ils servent à desservir l'irrigation. Ensuite, il y a la satisfaction de la production hydroélectrique. Et puis, un troisième usage, c'est la satisfaction de l'eau potable de Gap. La problématique, c'est que effectivement, le bassin du Drac est classé bassin déficitaire en raison du prélèvement qui est opéré à la prise d'eau du canal de Gap. les trois quarts de la ressource en eau du Drac est dérivée par le canal de Gap. Il ne reste plus qu'un quart qui est maintenu dans le cours d'eau, dans le Drac, pour satisfaire à la fois le bon état écologique de la rivière, mais également tous les besoins en eau dans la vallée du Champsaur.
Donc pour les habitants du Champsaur et pour les agriculteurs du Champsaur aussi.
Voilà, tout à fait.
Il ne leur en reste pas beaucoup.
Il ne leur reste pas beaucoup. Et c'est une problématique qui est de plus en plus prégnante et accrue, en raison en fait des évolutions hydrologiques que l'on mesure et que l'on observe sur ce bassin. On a un territoire qui est confronté à des pénuries de ressources en eau, un déséquilibre quantitatif. On a un devoir de rééquilibrage finalement, possible qu'en améliorant le partage de l'eau, c'est-à-dire en rééquilibrant la part en étiage allouée à Gap, la part en étiage maintenue dans le Champsaur. Il y a des solutions et des propositions de réorganisation des usages. Par exemple, c'est de transférer l'alimentation en eau potable de Gap vers la ressource en eau souterraine de la nappe, plus en aval. On peut aussi imaginer de créer des retenues d'eau alimentées en période de hautes eaux du Drac, provoquées par la fonte des neiges, qui pourraient bénéficier aux irrigants du bassin gapensé en fait, pendant l'été. Ce qui évite en fait, de prélever sur le milieu naturel, sur le Drac pendant l'été.
Quand vous voyez que finalement à Gap, il y a des résistances pour ne pas puiser dans cette nappe, est-ce qu'on peut parler d'une guerre de vallée ?
On est actuellement dans une situation de blocage concernant l'usage d'alimentation en eau potabilisable de la ville de Gap. C'est assez frustrant de voir que 10 ans n'ont pas suffi encore à convaincre les acteurs pour sécuriser les usages, parce qu'on risque de se retrouver à très court terme dans des situations fort dramatiques pour tous les usages, ceux du Gapensé, ceux du Champsaur, et puis pour l'état écologique du Drac.
Alors voilà, à défaut de s'entendre pour protéger le Drac, sécuriser l'eau de la vallée du Champsaur, assurer l'alimentation des agriculteurs du Gapensé et de la ville de Gap, ici finalement, chacun avance de son côté. La municipalité de Gap veut garder son canal gravitaire qui assure une eau pas chère, plutôt que d'aller puiser dans la nappe alluviale, ce qui implique bien sûr des investissements. Et du côté de la vallée du Champsaur, des communes ont commencé à se raccorder à cette nappe alluviale. Je vais monter maintenant à Orcières, à la source du Drac, Orcières qu'on connaît pour sa station de ski, Orcières Merlette. Et je vais retrouver le maire, Patrick Ricou, qui regarde ces conflits d'eau en aval de la rivière avec un peu d'amertume.
Bonjour.
Bonjour monsieur Ricou, c'est Lia, Kigré, France Inter.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien ?
Oui.
Vous nous emmenez où du coup pour voir ce Drac ?
Au bord de l'eau.
Oui, au bord de l'eau, c'est bien.
Bon, ben, allez, on y va alors.
On y va avec votre voiture ?
Oui.
Ok.
Allez.
Vous avez des paysages magnifiques là. La station de ski est juste au-dessus, hein,
oui,
c'est ça ?
Oui, à 5 km en amont, oui. Ouais. Donc c'est une station de ski. Voilà, on arrive à 15 000 personnes et c'est un peu la particularité de communes comme les nôtres. Hein. C'est un grand écart entre en ce moment où il y a 700 habitants permanents et puis les saisons touristiques. Donc ça nous demande aussi. Puis c'est une commune très étendue, elle fait 10 000 hectares, il y a une vingtaine de hameaux. Ouais, c'est la voiture.
On va aller voir ce Drac.
Bon, j'ai été à l'endroit le plus proche. Et...
là on va à la source. On l'entend là qui coule, ouais, on va s'approcher. Un peu plus loin, donc au niveau de la prise du Drac, le Drac est récupéré pour aller dans le canal. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas aujourd'hui dans ce système avec le canal de Gap ? Qu'est-ce qui devrait être corrigé ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
À certains moments de l'année, le Drac est considéré comme déficitaire et on est obligé d'arbitrer entre les différents prélèvements, les différents usages. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout est concentré au même endroit. La grosse difficulté, et ce sur quoi nous demandons des actions concrètes, c'est de dissocier les points de prélèvement. Et donc il y a deux actions aujourd'hui qui nous paraissent indispensables de mettre en œuvre. Hein. C'est d'abord de changer le point de prélèvement de la ressource en eau potable de Gap et d'aller directement pomper dans la nappe des Choulières, donc un peu plus en aval que le point de prélèvement actuel. cette nappe-là permettrait sans aisément de répondre à la demande. Maintenant, ça demande un certain nombre d'infrastructures, ça demande une unité de pompage, ça demande donc un adducteur spécifique pour alimenter l'eau potable. Et la deuxième action, c'est une action de stockage pour l'eau agricole sur le bassin Gapençais, avec une réserve d'à peu près 1 million de mètres cubes. Au Châtelard, qui ne poserait pas de problème par rapport à la ressource, puisqu'il y a des volumes d'eau qui sont considérables avec la fonte des neiges. Par rapport à un prélèvement au fil de l'eau l'été en fonction des besoins d'irrigation. Donc ça aurait un immense avantage, c'est de réduire les prélèvements en saison estivale lorsque le Drac est le plus bas. Ces deux solutions conjointes, ça réduirait la pression sur le Drac, ça permettrait aussi de préserver le bon équilibre entre les différents usages, entre l'irrigation des surfaces agricoles de la vallée du Champsaur, l'irrigation du bassin Gapençais, juillet-août, où on a une vraie difficulté, avec des compromis qui demandent certains investissements, certaines infrastructures, qui auront aussi des coûts de fonctionnement, mais aujourd'hui, je pense que c'est le prix à payer, parce que la ressource en eau, c'est quelque chose de fondamentalement important, et je crois que chaque collectivité, à son échelle, dans la mesure de ses moyens, doit faire les efforts nécessaires pour parvenir à ce bon équilibre, parce que quelque part, on a la gestion de l'eau, on a la gestion des risques, on a la gestion des ouvrages, et en plus, du fait des usages en aval sur un autre bassin versant, on est considéré comme en zone déficitaire, nos usagers en plus sont pénalisés au niveau de leurs taxes. Donc ça, pour le coup, c'est une vraie injustice. Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être un peu le gardien de la source ?
Oui, on a le gardien, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais en tout cas, préserver cette ressource qui est quand même une belle richesse et c'est de notre responsabilité de la préserver.
Plus de solidarité.
Plus de solidarité, oui.
Alors on a quitté le Champsaur, on est désormais sur le site du Châtelard, sous le pic de Bure. On va rencontrer Bernard Patin de la Société Alpine de Protection de la Nature, car ici les élus se sont tous mis d'accord pour créer un projet de retenue d'eau d'1 million de mètres cubes, c'est plus grand que Sainte-Soline, pour permettre aux agriculteurs d'avoir de l'eau dans les années à venir.
Bonjour.
Célia Quigré, France Inter.
Enchantée.
Donc vous nous avez donné rendez-vous ici sur le site d'une future peut-être retenue d'eau.
Sur le site d'un projet de retenue d'eau, oui, pour l'irrigation agricole d'une partie du bassin de Gap, du bassin Gapençais.
Ici on est dans un paysage magnifique, on est sur un haut plateau, on est entouré de montagnes. Ça veut dire quoi? Qu'on va construire ici une immense retenue d'eau plus grande que Sainte-Soline?
Oui, c'est presque 1 million de mètres cubes. Hein. Sainte-Soline, c'est entre 600 et 700 000 mètres cubes. Si on est donc à Sainte-Soline, plus 50%, c'est une super méga bassine. Alors je ne pense pas qu'il y ait énormément de travaux de terrassement. Il y aura probablement un barrage en aval pour barrer le petit vallon. Alors, il y aura probablement des travaux d'étanchéification hein, avec la pose de toile appropriée. Et on va détruire une petite zone humide, c'est vrai que c'est pas la Camargue, c'est pas les grands marais qu'on peut les connaître dans l'ouest de la France. Dans les Alpes, il n'y a pas de grandes zones humides. Hein. Il n'y a que des petites zones comme ça, éparpillées, qui apparaissent à la faveur d'une source, à la faveur d'un affleurement, de nappes phréatiques. Et on a une multitude de petites zones humides comme ça qui créent un réseau, un maillage du territoire qui bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que le jour où tout ça sera détruit, là, cette zone-là, elle a un rôle, un petit rôle, mais un rôle dans la gestion des flux hydriques, des flux hydrologiques du territoire. On en a besoin, ça régule les circulations d'eau, c'est une source de biodiversité qui bénéficie à tout le monde, mais ça on l'ignore.
Est-ce que vous allez l'attaquer en justice ?
Je pense que oui, on ira, on contestera jusqu'au bout le projet.
Donc la guerre de l'eau n'est pas terminée là ?
Non, malheureusement. Moi je préférerais qu'elle n'existe pas, parce que les solutions existent, hein, et tout le monde en convient. Les acteurs, les responsables, entre guillemets, élus ou non élus, techniciens, qui voient chacun le petit bout, leur petit bout de chemin, sans être capable de faire un petit pas vers l'autre pour trouver une solution qui finalement arrangera tout le monde.
Et c'est la nature qui trinque ?
Là, en l'occurrence, c'est la nature qui va trinquer, oui. Voilà. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas que dans ce contexte de changement climatique, de perte de biodiversité, on continue comme en 40 à faire des bêtises.
L'eau, source de conflit. Un reportage de Célia Quiret, Marie Roussel et Antoine Gignot. Prise de son, Thibaut Nassimben et Romain Lucquins. Réalisation, Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier. Mixage, Delphine Baudet. Cette émission est disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.